France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La belle émission que la joie de vivre, la joie de vivre. Toute simple. Un orchestre, des présentateurs, un speaker, un théâtre et son public, téléspectateurs et auditeurs, et puis des invités sur scène, évidemment. Des invités et une invitée d'honneur ce jour-là. Oui, c'est une idée toute simple et nous étions en 1956. L'invitée. Comment a-t-elle commencé à chanter? Quelle chanson chantera-t-elle? Je hais les dimanches, par exemple. Une chanson d'amour, selon elle, selon Juliette Gréco. Oui, la chanteuse, l'héroïne, c'est bien Juliette Gréco. Mais il y en aura tant d'autres. Tenez, Jean Carmet, par exemple, dans un hallucinant récital pour tambour historique, avec confiture et baguette. Rien que pour cela, il lui fallut se trouver le 29 janvier 1956 au Théâtre de la Gaîté à Paris, ou devant son poste de télévision, rare à l'époque, ou devant son poste de TSF, plus répandu. Sinon, eh bien, il suffit d'écouter dans les nuits de France Culture « La joie de vivre » de Juliette Gréco, son répertoire, bien sûr, mais elle chantera aussi du Brassens.
Au théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris, Henri Spade et Robert Chazal présentent aux spectateurs et aux auditeurs de la radiodiffusion Télévision Française la joie de vivre. Émission publique télévisée animée par Paulette Sirac et Henri Spade. Avec aujourd'hui Juliette Gréco. Et Anne-Marie Casalis, et Freddy Balta, Jean Carmet, les compagnons de la chanson, Sacha Distel, Pierre Heusé, les Gis Bop, Jean Lefebvre, Michel Legrand, Jean Lepoulin, Claude Luther et son orchestre, Henri Patterson, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Jean-Pierre Vaguet, Boris Vian, Jean-Pierre Moulin. Réalisation André Hugues, speaker Charles Bassompierre, avec bien entendu l'orchestre sous la direction du compositeur Jacques-Henri Riss et le public de la
Gaîté.
Et de nouveau mes chers amis, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle.
Bonsoir monsieur.
Aujourd'hui la joie de vivre de Juliette Gréco.
Avez-vous de la famille?
Avez-vous de la famille?
Oui.
Je me présente, Jules Gréco. Vous connaissez ma sœur. Extrait de mon livre, j'irai cracher dans vos vestiaires. Voici un sketch futuriste intitulé « La rencontre du zéro et de l'infini ». Je serai le zéro. Juliette veut bien. Et Jean-Marc Thibault, le comédien qui souffre. Sera l'infini. Moi?
Toi?
Oui, moi! Je suis le zéro.
Et moi, je suis l'infini. Et je vais mon chemin. Sans frein, sans foin, sans fin.
T'énerve pas.
Oui. Hein?
Moi, rien. 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 Mais alors, rien. Tintin!
Mais c'est normal, machine.
Pas machine.
Oh, machin. Oh.
J'aime mieux ça. Écoute, des hyperboles me cherchent.
Où t'as lu ça, toi?
Dans les paraboles. Je connais une môme qui est isocèle à plein cul.
Ah, Encore une parallélépipède qui donne dans le carré de l'hypoténuse à fond.
Ah, ce qui joue bien. Assez molécules absurdes. D'abord, on n'est pas branchés sur le même secteur.
Mais c'est vrai. J'ai pas mes 4/5 d'azote.
Oh, imprudent. Mais si t'as pas ta pression, prépare ton CQFD. Pam, pam.
Oula. Tais-toi, mixomato.
Oh, barbeur.
Ah, tu as levé là un beau lièvre.
33.
Que fais-tu?
J'écoute mon cœur qui pompe.
Hein?
Ce soir, j'ai transfusion.
Amoureux! Oh, vénard! Son genre, son nom!
Diesel, 400 chevaux.
Hein?
Mais culbuté.
Ah! Ah, machine!
Ah, là, tu peux le dire. Mon corps est une turbine. Et mon rêve, c'est la couronne d'Anastasia.
Mais qui t'a pistonné pour avoir ça?
Pi 314-116.
Hein? Toujours l'église.
Et c'est pas fini. Pourquoi baisses-tu ta ligne d'horizon?
J'ai de sales séquences sur la chaîne nationale. Et demain, où serais-je?
Loin!
Seul!
A2 plus B2 plus 2AC.
Égal X, c'est là où je vais.
Emporte des casse-croûtes.
Non, puisque tout corps plongé dans l'eau.
Ah, lâchez les chiens.
Reçois de bas en haut une poussée.
Mais toi, t'es un Archimède.
Archie 8823 en se téléphone.
Et tu l'aimes d'amour?
Non, par principe.
Et alors?
Je l'applique.
Comme tu dois souffrir. Dans le fond, j'ai mieux être zéro. Tiens, au moins, j'ai une base.
Bah, basé, toujours basé.
Et si je me rapproche de toi?
Mais on va se confondre.
On va se fondre.
On sera bientôt plus qu'un point.
Un point fixe.
Garde à vous.
Mais non, un point de départ.
Bah, partir.
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 Mais pour aller où ça?
Où ça?
Mais... Allez, comme un bambou, bambou. Allez, comme un bambou. Allez, comme un bambou, bambou.
Est-ce que vous reconnaissez cette image parodique
famille, oui.
qu'on vient de vous donner de votre famille intellectuelle comme réelle, Juliette Gréco?
Mais bien sûr.
Bon, alors écoutez, maintenant je vais vous demander tout de suite de revenir à des choses beaucoup plus sérieuses et de nous donner...
Pourquoi?
Ah, parce que, chose grave, chose importante, et de nous donner tout de suite une chanson qui soit une chanson très Saint-Germain-des-Prés. Parce qu'on va, au cours de votre joie de vivre, on va vous entendre chanter 5 chansons qui vont, je crois, assez bien marquer votre évolution et vos progrès, votre progression dans un certain sens. Et je voudrais d'abord entendre Jacques Léventreur.
Virginie, sors pas ce soir. Il y a du sang sur le trottoir, des fantômes dans le brouillard, et les flics qui sont trouillards demeurent au chaud dans leur car. Moi, je m'en fous, j'ai rendez-vous avec Sir Jack Léventreur. C'est la mer de mon cœur, c'est la mer de mon cœur. Virginie, c'est pas sérieux, ce mec-là c'est un vicieux, un pervers, un ténébreux. Avec son petit air gracieux, d'un coup de lingue, il te coupe en deux. Oh. enfant. J'ai rendez-vous avec Sir Jack Léventreur. Il a des manières honnêtes, une fleur à sa casquette. C'est la mec de mon cœur, c'est le mec de mon cœur. Virginie, oh, oh mais vous me cavalez, puisque mon cœur a parlé, j'aime mieux mourir éventré de la main d'un homme bien élevé. Et de vivre avec un paumé. Moi, enfant, j'ai rendez-vous avec Sir Jack Léventreur. Il a des manières honnêtes. C'est le mec de mon cœur, c'est le mec de mon cœur.
Chanter avec un chignon.
Et c'est la première fois que ça m'arrive.
Ah!
Les cheveux sont toujours là, oui?
Oui.
Là.
Ah bon?
Ils
bon,
sont là.
Bon. Là. Juliane, c'est vrai, vous m'avez dit cet après-midi que vous vouliez les couper. Est-ce que c'est vrai?
Oh. D'une certaine longueur, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis?
C'est dommage.
Ah?
Non?
Téléspectateurs, qu'en pensez-vous, téléspectateurs? Doit-elle couper ses cheveux, Juliette Gréco? Non! Ah, ah, Juliette, je crois que... Écoutez, Juliette, non, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance avec vos musiciens, avec Henri Patterson, qui est au piano.
Ah oui, pour moi, c'était une très, très grande joie.
Avec Sacha Distel, qui est à la guitare,
oui.
Avec Michaud, qui est à la contrebasse, et avec Freddy Balta, qui est à
l'accordéon.
Bon, alors, maintenant, ces messieurs, nous allons les entendre à tour de rôle. Sacha Distel va nous jouer à la guitare électrique, une phrase classique, une variation sur une phrase classique de Django Reinhardt. Nous vous écoutons, M. Distel.
Thank you.
Balta, que joue-t-il?
Eh bien, je reste dans le 18e.
Là, dans le 18e, c'est-à-dire?
Avec la toccata en ré mineur.
De Bach.
Roger Pierre nous a parlé de votre famille spirituelle, mais nous voudrions que vous nous parliez maintenant de votre vraie famille, en fait, de votre enfance.
L'ambiance de mon enfance est très douce, jusqu'à l'âge de 15 ans, très douce, très ouatée, très gardée de tout ce qu'on peut, rêver de désagréable. Et puis tout d'un coup, à partir de 15 ans, tout devient désagréable. Et je suis toute seule avec les choses désagréables. Alors, je deviens désagréable, ce qui est une défense comme une autre. Voilà.
Non, vous n'êtes pas désagréable.
Je me calme.
Ah, vous vous calmez ?
Je me calme.
Vous pensez que vous avez été plus désagréable au début de votre carrière que
maintenant ? Assurément, oui. Assurément, oui. Ah, oui.
Patterson aurait pu nous le dire puisqu'il vous a suivi tout le temps.
Patterson est la seule personne qui me connaisse très, très bien. Nous avons été dans tous les pays où j'ai voyagé. J'ai été avec Patterson. Patterson m'a toujours accompagnée depuis le premier jour. Et si je m'étais choisi un frère, je me serais choisi comme ça.
Oui.
Exactement comme ça.
Peut-être que ça ne vexe pas votre frère puisque vous n'avez pas de frère.
J'en ai pas. J'ai une sœur fort charmante, fort jolie, fort futée, que j'aime de tout mon cœur.
Et qui, lorsque vous ne dansiez pas bien, lorsque vous étiez petite, vous donnait des claques.
Qu'est-ce que vous en savez ?
J'ai lu ça dans un journal un jour. C'était sous la plume de votre amie Anne-Marie Casalis, je pense que ça n'était pas.
Oui, elle me poussait comme ça.
Elle voulait pouvoir être fière de vous.
Mais les sœurs aînées sont des tyrans.
Ouais.
Oui, les frères
aussi. Je n'ai pas eu sœur aînée.
Non ?
Non.
Vous avez quoi ?
Rien.
Rien ?
C'est un grand malheur.
Enfant unique.
Oui, ça se voit. Insupportable.
Quelle horreur !
Dites-moi, Juliette Gréco,
oui.
Vous avez grandi dans une atmosphère très douce et très calme.
Mm-hmm.
Et puis un jour, vous avez échoué à Paris, rive gauche.
Oui.
Et vos parents n'étaient pas là pour une raison qui était d'ailleurs extrêmement triste, c'est que votre maman avait été déportée avec votre sœur.
Elle n'était pas toute seule, de toute façon, ce sont pas des choses.
Et vous étiez seule à Paris et vous vous êtes donc trouvée mêlée à cette jeunesse. Vous avez fait partie de cette jeunesse tourmentée, de cette jeunesse triste de la guerre et de l'après-guerre. Et c'est ainsi que vous avez découvert la vie à Saint-Germain-des-Prés. C'est ainsi que vous êtes né à la vie et à l'art à Saint-Germain-des-Prés. Et alors, évidemment, a commencé à naître la légende de Gréco, muse de l'existentialisme, de Gréco sinistre, de Gréco triste, de Gréco dramatique, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pensez que cette image a été vraie à quelconque moment de votre vie ?
Je ne suis pas triste du tout. Je suis plutôt gaie, enfin, je ris volontiers, je m'amuse volontiers, mais la vie a des exigences contre lesquelles et à l'intérieur desquelles on est obligé de s'installer.
Oui.
Alors, quand on est un enfant de 15 ans, je ne sais pas, tout le monde a eu 15 ans, tout le monde sait ce que c'est qu'un enfant de 15 ans, qu'on a été très gâté, qu'on se trouve seul dans la rue avec un ticket de métro percé d'un côté, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un voyage à faire, il faut choisir le voyage qu'on va faire.
Bien sûr.
On choisit sa vie de cette manière aussi stupide. Je n'avais pas l'habitude de voir les gens que je voyais. J'étais très désagréable. Au tabou, par exemple, je flanquais les gens à la porte à grands coups de pied dans les fesses. Et ça n'allait pas du tout. Les gens arrivaient pour voir quelque chose qui n'existait pas. Ils venaient voir des gens particuliers. Non, nous n'étions pas des gens particuliers. Nous étions des enfants. Il n'y a rien de pire, vous avez certainement tous des enfants, et vous avez été des enfants, il n'y a rien de pire, rien de si cruel, et rien aussi de si attachant qu'un enfant, mais nous n'étions rien de plus et rien d'autre. Et les gens venaient voir des monstres. Bon, moi je veux bien, mais ils m'énervaient.
Oui. Mm-hmm. Mais à cette époque-là, vous avez commencé à chanter, et vous avez commencé à chanter presque comme par un pari, en fait, très rapidement.
Oui, c'est une espèce de galéjade. Je ne suis pas méridionale pour rien.
C'est vrai que vous êtes sétoise.
Non, c'est Georges, c'est Brassens.
Ouais.
Moi, je ne suis pas loin, je suis Montpellier.
Montpellier, oui, je ne suis pas trompée de beaucoup.
Non.
Ouais. Et votre papa était corse.
Oui.
Quel est le pari qui vous a fait chanter ?
Simplement, la chose suivante, avec Marc Dolnitz, un jour, on est venu nous trouver, Anne-Marie Casalis, et on nous a dit, voilà, le bœuf sur le toit est à vous. On a trouvé ça marrant. On est allé voir le bœuf sur le toit, c'était immense, c'était très très grand, avec des tentures rouges. On s'imaginait déjà qu'on allait mettre nos lits et qu'on allait y habiter et y vivre. Enfin, ça nous semblait le comble du confort et de l'agrément. Alors, nous sommes arrivés à ce bœuf sur le toit, on a regardé et on s'est dit, bon, maintenant, si on veut y rester, il faut faire quelque chose. Alors, chacun s'est mis dans un coin, a prié son Dieu personnel et a cherché l'inspiration. Puis, au bout d'un moment, l'inspiration est venue et moi, j'ai dit au garçon, voilà, bon, ben moi, je vais chanter. On verra bien ce qui arrivera. Les gens me connaissent. Ils savent que j'ai des cheveux longs, des pantalons noirs, des chandails noirs, que je m'appelle Gréco. Alors, on va essayer de les faire venir pour une raison valable, autre que la curiosité superficielle, enfin, la curiosité physique. Alors, les gens sont venus. Je chantais très, très mal, très faux. J'avais très, très peur. Mais ils sont venus quand même. Puis, ils sont revenus. Et puis j'ai appris mon métier, et puis ils sont revenus, et voilà.
Et tout de suite, vous avez d'ailleurs rencontré un nouveau succès, et vous avez par exemple chanté une chanson que vous allez nous chanter tout de suite, que nous réécouterons avec beaucoup de joie.
Quoi ?
Ce sont les Feuilles mortes. Un magnifique arrangement d'André Grasse.
Thank you.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil est plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. La mer efface sur le sol les pas des amants et des
Je ne vois pas pourquoi vous êtes morte de peur à ce point.
Pas.
C'est comme ça à chaque fois?
Ben oui.
Comme à Béziers?
Ah non.
Pas comme à Béziers?
Non, pas à Béziers.
Pas comme à Béziers.
Pas à Béziers, pas les arènes.
Juliette était non. Partie. Était partie chanter à Béziers dans un gala en compagnie de Robert Lamoureux.
Ouais. Hein?
Et puis la scène pour aller au micro, il y avait 100 mètres à faire. Dans cette grande robe de scène.
Et ouais. C'était la saison des vendanges.
Oui, donc ils avaient bien mangé et bien bu. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont eu très peur.
Ben, vous vous êtes fait peur mutuellement.
Oui, ils ont eu très peur. Ils ont vu arriver cette longue forme noire. Ce sont des arènes, il y a 10 000 personnes. Et qui plus est, ils étaient venus, c'était ma première tournée, ils étaient venus entendre Robert Lamoureux. Et bien entendu, ils étaient venus l'entendre lui. Enfin, il y en avait quelques-uns qui étaient venus pour voir quelle tête elle avait, cette Gréco, quelle tête elle a. Et qu'est-ce que c'est, cette Gréco? Alors, ils étaient venus voir, et ils ont eu très, très peur. Ils se sont demandé ce qui leur arrivait. Ce qui fait que ça a été un scandale abominable. Les gens hurlaient, ils se sont battus, ils se sont lancés des grappes à la tête. Enfin, ça a été affreux.
Enfin, maintenant, je veux peut-être vous décevoir, Juliette, mais vous ne faites plus peur à personne.
J'espère.
Hein? Tant pis, faut prendre votre
part. Même pas à ma fille, c'est
non.
Ça. Alors,
ah,
non,
ça c'est plus grave.
Oui, beaucoup plus grave.
Vous nous avez dit tout à l'heure que Georges Brassens était... Que vous aimiez Georges Brassens, je crois qu'il fait partie de votre joie de vivre.
Ah oui, profondément.
Votre voisin, là,
oui,
de Sète.
De Sète Noire.
Ah oui, profondément. J'aime beaucoup Georges, quitte à me faire insulter par des gens qui ne sont pas de mon avis.
Non, mais vous allez voir... Je pense que vous allez être contente, Juliette, parce que nous allons vous faire entendre une chanson de Georges Brassens que vous connaissez peut-être, une chanson qui s'appelle La Prière. Et pour la chanter, eh bien, nous allons fêter ici la rentrée à Paris de garçons qui viennent une fois de plus d'accomplir une triomphale tournée aux États-Unis. Et il s'agit de nos amis, les compagnons de la chanson, bien entendu. Bravo.
Départ.
Nous ferons notre rentrée dans la joie de vivre, et bien les voilà.
Alors voici la prière de Georges Brassens.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que les enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé, ne sait pas comment son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent.
Je vous salue Marie.
Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée,
je vous salue Marie. Par la vieille qui trébuchant sous trop de poids s'écrie mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine, comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie.
Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui gêne, et par le juste mis au rang des assassins,
je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour pardonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue,
début au théâtre.
Font-ils partie de votre joie de vivre, Juliette Gréco?
Oui, à la fois de ma joie et de ma peur.
Encore?
Oh si, oui, il y avait de quoi être un peu inquiet quand même.
Oui?
Oh, oui, oui.
Ça s'est bien passé.
Parce que les gens n'aiment pas beaucoup qu'on se transporte d'un métier à un autre comme ça, sans transition.
Bah, vous vous êtes bien transporté de la cave du tabou, vous ne faisiez rien.
Je ne faisais rien.
Alors, c'est un métier.
C'est un joyeux métier, oui.
Et vous avez bien chanté. Non, je crois que ça marche très bien. Et alors, voyez-vous, je veux pas vous demander de jouer une scène d'Anastasia, parce que vous m'avez dit ce soir, non, je reste avec
Bonsoir
de
relâche.
Bonsoir de relâche.
Bonsoir de relâche.
Mais votre ami Jean Le Poulain, qui a mis la pièce en scène et qui l'a joué avec vous.
Merveilleusement.
Mon Dieu, a voulu fêter à sa manière votre entrée dans la grande famille des acteurs. Et vous savez qu'autrefois, les acteurs étaient des gens qui, contrairement aux messieurs normaux, si j'ose ainsi m'exprimer, qui eux portaient la barbe et la moustache, les acteurs, à cette époque-là, étaient rasés. Et c'est pourquoi on les appelait des mentons bleus. Et ces mentons bleus, évidemment, Georges Courteline les a immortalisés. Et voilà pourquoi, eh bien, Jean Le Poulain, avec Jean-Pierre Vaguet, Jean Lefebvre et Jean-Pierre Moulin, va vous jouer maintenant cette scène fameuse de Courteline, les mentons bleus pour fêter votre entrée tout simplement dans le métier.
Merci.
Émile.
Oui, monsieur.
Je ne me trompe pas, c'est bien monsieur Rapetto.
Mais oui, monsieur.
Je le croyais en présentation.
À l'étranger, oui, monsieur, mais il est de retour depuis hier de sa grande tournée mondiale.
Mondiale? Ah, tu as des lettres, Émile.
Ah non, monsieur, le facteur ne vient qu'à 5h30.
Oh.
Si vous fait rire.
Non, non, rien, apporte-moi mon bock.
Ah, celle-là, par exemple, est forte. Boubic. Boubic engagé chez Sarah. Ah, dites-moi, monsieur.
Monsieur.
Vous avez lu ce journal?
Non, monsieur, pas encore.
Est-ce que cette simple phrase ne vous plonge pas, comme moi, dans un abîme de stupeur?
Mais laquelle, monsieur?
Celle-ci, monsieur. Monsieur Boubic vient d'être engagé au théâtre Sarah Bernhardt pour jouer le rôle de Napoléon dans la reprise de Madame Sangère. Boubic.
Boubic?
Oui, vous ne connaissez pas.
Je n'ai pas cet honneur.
Si vous croyez que vous êtes le seul... Mais mon cher monsieur, ce Boubic, ce n'est pas qu'un illustre inconnu, c'est l'inconnu. L'inconnu lui-même, l'inconnu avec un grand I. El Cheo ! Voilà l'homme que Sarah est allée pêcher dans la foule des compétiteurs. Quand je pense qu'il y a en France un artiste qui, l'an dernier au Théâtre du Capitole, a fait du rôle de Napoléon une composition telle qu'un cousin de Victorien Sardou est venu dans sa loge pour le voir de tout près et le féliciter.
En vérité ?
Oh, mais ce n'est pas lui que Madame Sarah Bernhardt...
Un mot !
Dites.
De qui parlez-vous?
De qui je parle?
Oui.
De qui je parle?
Oui.
Faut-il que vous soyez bête, monsieur réfléchi, pour poser une question pareille? De qui je parle? Mais de moi, parbleu!
Oh, pardon.
Vous n'avez donc pas lu le petit méridional du 2 septembre 1904?
Mon Dieu, non.
Alors qu'est-ce que vous lisez? Hein, le bottin? L'indicateur des chemins de fer? Mon tricot? La femme au foyer? Mais lisez, monsieur, lisez! Vous comprendrez alors pourquoi Madame Sarah Bernhardt ne saurait souffrir à ses côtés la présence d'un Rapetto, lisez, monsieur.
Ah, Madame Sangène au Capitole.
Madame Sangène au Capitole.
L'illustre Rapetto.
Oui.
Des principaux théâtres de Paris.
Et de la banlieue, oui.
A remporté hier soir dans le rôle de Napoléon un de ses succès qui classe à jamais un artiste.
C'est ça.
Et nous doutons fort que
Taillade
Mélingue
Frédéric Lemaître, qu'est-ce que vous dites du Pouillon?
Oh.
Vous êtes bête.
Non.
Vous êtes bête. Ah, cher monsieur réfléchi. Que de fois j'ai pu éprouver la présence d'esprit, le sang-froid.
Oui.
Ce fut une soirée que j'oserais qualifier d'historique. Si vous aviez vu à un moment donné de quel geste majestueux j'appuyais la main sur le globe impérial, tenez comme ceci, voyez.
Ah, ah, oh,
ça, garçon, un coup de cache-mire à monsieur Réfléchi.
Ça n'est rien, monsieur Rapetto, continuez, je suis tatoué. Oh, pardon, tout oui.
Et le plus curieux de l'affaire, c'est que j'avais à lutter contre l'odieuse cabale organisée à mon intention par l'étoile de la troupe, Madame Frémicourt, que mes succès avaient rendu folle de rage.
En vérité,
des voyous postés au paradis imitaient le cri du canard à chaque pas que je faisais sur la scène.
Ah, coin,
oui, parfaitement. Mais je ne tardais pas à les réduire au silence, très simplement de cet œil en quelque sorte impérial que je sais avoir lorsque je joue les Bonaparte. Je leur décochais cette flèche. Qu'importe à l'aigle qui plane le gloussement des oiseaux de basse-cour.
Oh, très bien.
C'était fini, ils étaient mouchés.
Admirable.
Mon Dieu, nous. Simple effet de cette présence d'esprit, que l'effet bienfaisant a gratifié à mon berceau et qui m'a rendu ton de service au cours de ma longue carrière. Tenez, un exemple dans le tas. C'était à Saint-Nazaire, en 14 ou en 15, l'année d'exposition. Je jouais Bajazé. J'entre en scène vêtu de mon costume oriental. Et, sans me laisser ouvrir la bouche, un spectateur facétieux me crie de l'orchestre « La danse du ventre !» Est-ce l'ombre du grand Racine qui m'inspira cette réponse? Je ne sais pas. Mais du tac au tac, je ripostais à ce goujard. « La danse du ventre! Demande-t-on ça à ta sœur ?» Oh non, ce succès! Le soir, on me reconduisait à l'hôtel du Globe où j'étais descendu avec des flambeaux.
Extraordinaire!
Mais non!
Extraordinaire!
Mais non!
Ah, si.
Ah, la présence d'esprit! Que de fois j'ai pu l'éprouver, notamment à Montmorillon, au Théâtre Royal de Montmorillon. On jouait le courrier de Lyon, l'attaque de la Belle Poste, et je représentais nos bâtons. Vous pensez que jamais la population n'avait été à une pareille fête? Est-ce que tout à coup, au moment de lancer la réplique à effet qui clôt le troisième tableau, Il connaît le secret de mon âme. Il demande si j'oserais. Est-ce que tout à coup la mémoire ne me manque pas?
Sacrebleu!
En importe. Oh, je ne perds pas la tête. Très simplement, les pages, je me lève, l'air inspiré, l'œil au ciel, comme dans un rêve. Je m'avance jusqu'au trou du souffleur. Vous avez fini? Vous avez fini?
Quoi donc?
Je peux continuer?
Oh, je vous en prie.
Je vous dérange pas?
Oh, mais du tout.
Non, parce que si vous avez encore besoin d'une heure ou deux, je peux aller faire une course.
Oh non, je vous en prie.
Vous comprenez, monsieur Réfléchis, que je me donne la peine de vous raconter une histoire. Vous pouvez, vous, prendre la peine de m'écouter?
Oh, mais oui, monsieur.
Enfin, ça y est.
Oh, mais oui.
Je peux continuer?
Je vous en prie.
Vous y êtes?
Oui.
C'est heureux. Je m'avance donc au trou. Nous avions une salle. Tout mon moridon était là. Oh, le juge, le préfet, le sous-préfet, jusqu'au curé, qui était venu avec une lunette et des barbes. Une barbe et des lunettes. Enfin, tout le diable et son train. Bon. Pensez donc, jamais la population n'avait été à une pareille fête. On jouait le courrier de Lyon ou l'attaque de la Valposte et je représentais Daubenton, le rôle principal. Bon, alors, je me campe un pied en avant, la main sur la garde de l'épée, kiff-kiff le commandeur. Vous savez, lorsque Don Juan l'invite à souper. Venez, regardez, voilà le mouvement.
Oh oui, oh ainsi, quoi.
Non, plus simple. Ainsi,
ainsi alors.
Non, vous fatiguez pas, il n'y a que moi qui peux le faire. Dans la salle, plus rien, plus un cri, plus un souffle. Ils étaient là combien? 500? Qu'est-ce que je dis 500? Plus de 2000, 10 000. Hagard, suffocant, hébété.
Baba, quoi.
Baba, c'est ça, je cherchais le mot juste, baba. Non, mais c'est que vous savez, pour savoir tenir la scène, avoir le pompon. Tenez, qu'est-ce que vous voulez? Napoléon? Tenez, regardez, Napoléon!
Voilà. Oh, bravo!
Le même, vu de dos.
Oh, bravo, oh, bravo.
Et pour les jeunes physionomies, monsieur, je n'en crains pas un. Pas un. Tenez, regardez un peu.
Je regarde.
Qu'est-ce que vous voulez?
Ah, ben, je veux bien une frise à l'eau de vie, moi.
Mais je vous parle pas de ça, je vous demande, voulez-vous la haine ou la joie?
Oh, pardon, monsieur, la haine.
La haine?
Oui. Ah, bravo!
Bah, attendez, j'ai pas commencé. La haine!
Ah, bravo, là! Oh, alors, bravo! Oh, monsieur, la joie, s'il vous plaît.
La joie?
Oui.
La joie?
Allez,
la joie!
Oh, très joli, ça, très joli.
La crainte, à présent?
Vous serez obligé.
Allez, la crainte.
Allez. Oh, bravo! Admirable, admirable.
La douleur, à présent?
Avec plaisir.
La douleur!
Non!
Si!
Ah non, non! Ah non, arrêtez-moi, je peux pas voir ça, monsieur, ça me bouleverse!
Oh, ce que c'est bête d'avoir une sensibilité pareille!
N'est-ce pas que c'est chouette?
Oh, oui.
Alors, je me dis, à nous deux, tas de bourgeois, épiciers, salauds, pas d'en que pour l'organe, hein, vous pouvez toujours le chercher, celui qui me fera la pige! Le voix qui sonna dans le silence, comme une fanfare de trompette, je vais crier! Mais je connais cette gueule-là. Mais c'est rondouille.
Un péto.
Rondouille.
Oh, oh, c'est ma
mère. Ah, ben ça, par exemple. Tu diables, si je pensais à toi.
Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune m'apprend.
Ah, c'est pas tout ça, tu vas prendre un verre, hein? Mais d'abord, dis bonjour à monsieur Réfléchi.
Bonjour, monsieur Réfléchi.
Monsieur, mes hommages.
Rondouille! Ça ne vous dit rien? Je m'en doutais. Sacré rondouille, va. On ne pourra pas dire que tu as confisqué la gloire à ton profit, hein? Ah, mais qu'est-ce que tu peux? Faut se faire une raison, tout le monde ne peut pas être illustre. Alors, un demi?
Oh, un quart.
Comment un quart?
Oh, mais non, c'est suffisant.
Oh, fiche-moi la paix, hein. Tu vas me faire le plaisir de prendre ce que tu voudras et ne te gêne pas.
Bon, alors donnez-moi une fine.
Un demi pour monsieur, un demi. Un bon demi. Ah, sacré rendu. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez l'air de dire? Pourquoi est-ce que vous le regardez comme ça? Insolent. Quoi, il n'est pas très bien habillé? Est-ce que ça vous regarde? Mêlez-vous donc de servir des bocs. La main, les consommations sont pour moi. te demande pardon, Rondouche. Larbin, videur de fraude sombre. Jamais, Tucan, jamais. Je ne permettrai à un misérable loufia de manquer de respect à un vieux camarade. Est-ce que c'est son affaire si tu es mal foutu? Quoi? Tu le sais bien que tu es mal foutu. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te le dire en face, avec l'air de te le reprocher. D'abord, pauvreté n'est pas vice. N'est-ce pas, monsieur Réfléchis?
Certainement, monsieur Rapetto.
Vous êtes de mon avis?
Absolument.
Ne prenez pas la main. Oh. Tiens, non, tout l'honneur est pour moi. On est toujours honoré de serrer la main d'un honnête homme, même s'il a l'air d'un imbécile. Mal foutu!
Je t'en prie, Rapetto, je t'en prie.
Tu sais,
Rapetto, allons, Rapetto, allons.
Je sens la colère qui me prend. Ah, tu as raison, tiens. Allons, à ta santé, Rondouille. À la vôtre, monsieur Réfléchis.
Ça n'est pas pour l'affaire de boire un verre ensemble.
Non.
C'est pour l'histoire de dire qu'on est en société.
Il a l'air très bien, ce vieux monsieur.
Très bien. Dites-moi, monsieur Réfléchis, vous voyez cet homme?
Oui, monsieur.
Eh bien, c'est tout simplement mon plus ancien compagnon d'armes. Il y a 30 ans, nous avons fait la tournée ensemble et joué la comédie Rondouille. J'exagère?
Pas de sac, hein.
Aussi, il peut se vanter de m'avoir vu à l'heure, voilà. Tout à l'heure, quand je vous disais comme je soutiens, là, vous aviez l'air de rigoler. Demandez-lui donc un peu ce qu'il en pense. Rendez-vous, là, sincèrement, là, franchement, là, la main sur le cœur, est-ce que je joue bien, oui ou non? Ah, hein? Et je lui fais pas dire. Et vous savez, pour qu'il le dise, au fond, il faut vraiment qu'il le pense. Au fond, il serait plutôt porté à me tépiner. Ah ouais, c'est pas de sa faute, il n'a jamais eu de succès. Il n'a aucun talent.
Ah mais si.
Mais non, aucun.
Ah, mais si.
Mais non, voyons.
Oh écoute, t'exagères, j'en ai quand même. J'en ai peut-être pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. J'ai fait de l'effet 4 ou 5 fois.
Ça fait quelque chose,
cela. Mais tais-toi donc. Je t'ai toujours dit, tu n'as rien de ce qu'il faut pour entrer au théâtre. La tête est triste, regarde-moi ça. Le regard est sans expression. L'organe est sourd. Mais avec des qualités comme ça, on se fait cocher ou garçon de bain.
Garçon de bain.
Mais qu'est-ce que ça peut te faire d'abord de ne pas avoir de talent?
Mais
est-ce que ça m'empêche d'avoir de l'amitié pour toi?
Eh ben alors.
Oh, mon vieux. Tu ne sauras jamais comme j'ai de l'amitié pour toi. Je le disais tout à l'heure à monsieur Réfléchi,
oui,
qui est bien moins bête qu'il ne le paraît à première vue.
Monsieur a l'air fin.
Oh, trop aimable. J'ai d'assez beaux yeux, voilà tout.
Tu te rappelles quand on est allé jouer la Tourdenelle à Amboise?
Ah oui, tu jouais le rôle de Buridan.
C'est ça. Oui. Toi, tu représentais Louis X.
Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Louis X, dans la pièce?
C'est un rôle muet. Oui. Les seigneurs s'inclinent devant lui au quatrième acte. Il traverse la scène sans y aider. Hein. Grand un pétard qu'elle se fait. C'est comme un vierzon, tu te rappelles? On jouait les deux orphelines. Lui, il représentait le gardien de la prison. C'est un rôle muet. Oui. Les prisonnières s'inclinent devant lui. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Hein? Quand j'ai eu lancé la réplique à effet qui clôt le troisième tableau, cet homme est-il un monstre ou un martyr? 14 femmes se sont trouvées mal à force de m'avoir trouvé bien. Y compris le juge-priseur à qui il a fallu apporter de l'eau de mélisse. Oui, et tout ça n'est rien comparé au succès que j'ai eu dans Les Pirates de la Savane. Je jouais le farouche Ribeiro, le rôle principal. Rondouille, lui, faisait le serpent.
Mais quel serpent?
C'est un rôle muet. Oui, oui. On reste derrière la coulisse, on passe une peau d'anguille dans la main, on agite ça comme ça, puis comme ça, puis de loin, on dira un serpent.
Et c'est monsieur,
qui faisait le serpent. Oh, il était très bien, très bien.
C'est bien simple, je bois à vos lauriers.
Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Tu te rappelles à Saint-Quentin, le radeau de la Méduse, hein? Tu faisais un flot.
Un flot?
Oui, une vague.
Ouais. Une vague. Pendant que d'une voix déchirante, j'ai crié, il faut donc mourir. Lui, il était à quatre pattes sous la toile, il agitait ça comme ça avec son dos.
Ah, Jarnicoton.
Et à Lille, crois-tu que j'étais drôle dans peau d'âne? Oh, qu'est-ce que tu faisais, toi? Ah oui, la moitié de l'âne, oui. Les pattes de devant. Ah non, les pattes de derrière, non. Les pattes de devant, c'est dans Don Quichotte à Béziers.
Et à Tours.
À Tours?
Oui, à Tours. Tu te souviens pas dans Ruy Blas? Oui. Tu te souviens pas, à Péto? Je faisais un domestique.
Oui.
Et toi, tu remplaçais le rôle de...
Non, je remplissais le rôle. Oui.
Tu remplissais le rôle de Frédéric Lemaire. Oui. Hein? Et tu étais si mauvais, que quand tu as lancé « Bon appétit, messieurs », la moitié de la salle est allée se coucher, et l'autre moitié hurlait à tue-tête « Assez, sortez-le! La toile! Assez, sortez-le! La toile! Assez, sortez-le! » Oui, et à Tours! Et à Grenoble, oui, à Grenoble, tiens! La fois qu'on t'a foutu un petit Suisse sur la gueule, quand je suis pas
d'imbécile.
De rouge, vaillasse.
Capot.
M'as-tu vu?
Qu'est-ce que vous fichez là, vous, hein? Est-ce que voilà qu'il y a un imbécile qui se met de ce qu'il ne regarde pas?
Permettez.
Permettez.
Et Arras, monsieur, est-ce que c'est de ma faute à moi si vous n'avez pas
fait ça? Et Arras, et Aline, et
maintenant, à votre tour. Vous allez maintenant nous chanter une chanson qui... Est-ce que vous croyez vraiment ce qu'elle dit, cette chanson? Qui a été un autre de vos grands succès, Je vais les dimanches. Vous croyez ce qu'elle dit?
Oui, vraiment.
Oui.
Oui. Vous n'êtes pas de mon avis. Non, vous aimez beaucoup le dimanche? Il y a deux solutions. Ou bien on aime quelqu'un. Et alors, il n'existe ni jour de semaine, ni jour de fête, ni jour férié, et l'emploi du temps est normal. Ou bien alors, on n'aime pas quelqu'un, et on s'ennuie affreusement. C'est tout. C'est d'ailleurs une chanson d'amour, Je vais les dimanches. Si vous l'avez bien écoutée, c'est une chanson d'amour. Vous allez voir.
Mais y'a pire que la semaine, y'a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Je hais les dimanches, je hais les dimanches. Dans la rue, y'a la foule des milliers de passants. Cette foule qui coule d'un air indifférent. Cette foule qui marche comme un enterrement. L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. Je hais les dimanches. J'ai le dimanche. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis partie de près. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps, flanqués de soleil, qui effacent en brillant les soucis de la veille. Dimanche plein de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux ou timides serments. Dont à travers les rues, nous irions glisser tout de main dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens que l'on dit bien pensants, et ceux qui ne sont pas, mais qui veulent qu'on le croit, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien ne les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour parce qu'ils n'ont rien à faire. D'avoir des dimanches, d'aimer le dimanche, de croire au dimanche, quand je hais les dimanches.
Aimez-vous donner des autographes?
Oui, beaucoup. Beaucoup, mais il y a toujours quelque chose qui me gêne et qui m'inquiète quand je donne un autographe. Je donne l'autographe, je suis très heureuse, très, très flattée, ça me fait un profond plaisir, puis j'aime bien comme ça voir des gens qui sourient, qui disent « c'est agréable ». Mais il y a une chose que je me dis, Maintenant, ça passe un peu. Mais au début, ça me gênait atrocement. Je me disais, voilà, si demain, dans la rue, Raymond Queneau descend, qu'il se promène, ou si Madame Curie descendait dans la rue, se promenait, si des quantités de gens qui sont des savants, qui sont des écrivains, descendent dans la rue, se promènent, personne ne les regarde et personne ne sait qui c'est. Et j'ai en définitive une très grande honte que les gens me reconnaissent, moi, pour le travail infiniment petit que je fais par rapport à celui de ces gens pour lesquels j'ai une admiration immense et auxquels je n'oserais même pas demander de me signer un papier. Voilà.
Je pense que si je peux vous consoler, Gréco, Juliette Gréco, eh bien, je crois que ces gens-là seraient très malheureux de travailler sous le feu des projecteurs et qu'ils sont très heureux d'être dans l'anonymat. Je crois qu'ils seraient très malheureux de s'exhiber. C'est d'ailleurs une des grandes raisons pour laquelle on a très rarement pu faire les joies de vivre de grands savants, de très grands écrivains. Ouais. Parce qu'ils répugneraient à venir sur une scène de théâtre, à s'y produire, comme c'est, mon Dieu, notre office à nous autres.
Oui.
Et je crois qu'ils ne souffrent pas de cet état de choses, comme vous souffrez.
Non, eux n'en souffrent pas, parce qu'ils n'en ont absolument pas conscience, ils ont autre chose à penser. Mais,
le plus important.
Oui, infiniment. Hein?
Écoutez, maintenant vous avez chanté des chansons avec vos accompagnateurs, mais vous faites aussi maintenant, vous chantez des chansons avec plus grande orchestration, vous aimez ça?
Ah, j'adore ça. D'abord, j'adore les grands orchestres. Bonjour, Monsieur Riss, bonjour. Et j'aime beaucoup Michel Legrand.
Voilà, eh bien, écoutez, alors ce soir, Michel Legrand est venu dans votre joie de vivre avec sa grande formation, Michel Legrand.
Ah ah!
Mais avec Freddy Balta, coin de rue, s'il vous plaît.
C'est un orchestre, cet homme.
Ah, tout seul.
Voici Charles Trenet, coin de rue. Je me souviens d'un coin de rue aujourd'hui disparu. Je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir est tout neuf qui fait de la fête. Une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et mais aux enterrements. Je me souviens d'un coin de rue aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans. Un amour qui fut perdu juste à ce point de vue. Et depuis, j'ai beaucoup voyager,
trop souvent un pays étranger. Monde neuf, construction et démolition, vous me donnez des visions. Je crois voir mon coin de vie et soudain à Paris, je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mes dessous, mes muguets de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus.
Maintenant, faire apparaître dans votre joie de vivre un autre compagnon de Saint-Germain-des-Prés, de la rive gauche, et un garçon qui touche à l'existentialisme d'une façon très très particulière. Vous le connaissez bien puisque c'est Jean Carmet,
oui.
Hein, que c'est un de vos vieux amis. Ce Jean Carmet que vous voyez là et qui tout à l'heure va vous faire un peu de grande musique car c'est un grand musicien à 16 heures. Eh bien, voilà pourquoi Juliette, je vais vous dire pourquoi vous l'avez rencontré à Saint-Germain-des-Prés. Il y a quelque chose comme... mettons 17 ans, mettons maintenant 18 même, ce qui ne rajeunit pas. Oui, oui, bah oui.
Oh là là,
c'était
là
dans
là
des
là
temps
là.
Très anciens. Oui. Il y avait au Quartier Latin un certain nombre de jeunes gens qui sortaient de philo, qui avaient eu comme professeur de philo à Pasteur un monsieur qui s'appelait Sartre, qui en avait rejoint d'autres qui faisaient leur licence de philo, là. Et ces 4 ou 5 bons hommes avaient comme professeur à la Sorbonne un monsieur qui s'appelait Meyerson et qui leur parlait de Kierkegaard et de Heidegger. Et ils étaient très enthousiastes.
Ils avaient de saines lectures.
Ils avaient de saines lectures. Ils étaient très enthousiastes. C'était leur métier d'étudiant en philo. Ils avaient été très enthousiastes pour ce monsieur Sartre que certains connaissent, d'autres ne connaissaient pas. Ils se réunissaient dans l'arrière-salle d'un café qui a disparu depuis. C'était, on peut bien le dire, les premiers véritables existentialistes. Et ils ne pensaient pas du tout à se faire pousser les cheveux dans le cou. Enfin, parce qu'à ce moment-là, ils en avaient quelques-uns.
Oui.
Encore. Et un jour, on a vu débarquer de sa campagne le cousin de l'un d'eux, qui n'avait rien à voir du tout avec cette histoire, qui était Jean Carmet, et qui n'a plus quitté du tout le quartier depuis. Hein, Jean? Voilà pourquoi vous l'avez connu,
alors
Jean
voilà
Carmet.
Un récital.
Alors maintenant, son récital fameux de tambour, car vous savez que c'est un très grand musicien.
À la demande générale, quelques extraits de mon hallucinant récital pour tambour historique avec coiffure et baguette. Quelques thèmes parmi les plus connus. Ensemble, remontons les siècles. La Frétillette, 42 avant Jésus-Christ. Ça continue, Spade, hein? À votre âge. Imbécile. La Frétillette, 42 avant Jésus-Christ. Ah. Je ne l'ai pas encore mérité. La Grande Régalade, 790 après Jésus-Christ. Ah. Belle année pour la France. Ah. 1815. Triste année pour la France. Hein? Les deux orphelines. 1212. Hein? Le drôle de peau. D'inspiration nordique. Irréalisable sur un tambour français.
Ah bah non, ça va pas recommencer cette histoire. Vous avez dit de la prendre. Allez jouer dans votre cours. Le tabou, vous nous avez dit que c'était un endroit où vous ne faisiez rien.
On parlait. Oui.
Que de vous amuser aussi.
Énormément.
De danser.
Oui.
Pourquoi dans la cave?
Parce que d'abord, il y faisait chaud.
Ouais.
Ensuite, c'était un endroit qui était dans un quartier que nous aimions. Et dans ce tabou, au lieu de parler sur les trottoirs jusqu'à 4 heures du matin, comme on faisait, on prenait nos consommations... des cafés ou des trucs comme ça, on allait s'asseoir sur le bord du trottoir, on s'installait, on commençait à faire salon dans la rue. Ce qui fait que les gens qui habitaient dans cette malheureuse rue Dauphine nous ont aspergés d'ordures. Vers 4 heures du matin, on recevait des seaux d'eau, des pots de chambre. Tout ce qui leur passait sous la main, nous, nous le recevions sur la tête. Nous nous sommes fait fortement insulter, on nous disait... Garnement, vous empêchez de braves travailleurs de dormir. Nous, ça nous faisait rien du tout. Ça nous était complètement égal. Nous continuions de parler, de nous amuser. Il nous en voulait beaucoup, et plus il nous en voulait, plus ça nous amusait. Je ne sais pas, mais les enfants de ces gens doivent être très mal élevés. Ou bien ils sont menteurs, ou bien ils sont indisciplinés, parce que ce n'est pas une manière d'agir. S'ils étaient descendus tristement en nous disant... Voyez comme nous sommes fatigués, vraiment, vous êtes de méchants enfants. Alors là, peut-être, on se serait calmés, mais ils nous ont titillés. Alors plus ils nous titillaient, et plus on se fâchait, et plus on faisait du bruit. Et voilà le tabou.
Voilà le tabou. Eh bien, voilà
pas
le tabou,
Juliette
Gréco. Si vous voulez bien, comme vous nous avez dit que le tabou, c'était presque votre enfance, hein?
Non, c'était mon adolescence, je me suis bien amusée, et je ne regrette rien.
Eh bien, voyez-vous, ce soir, nous allons essayer d'y retourner au tabou. Nous allons retrouver là les amis que vous y aviez en ce temps-là. Nous allons y retrouver Anne-Marie Casalis. Nous allons y retrouver Claude Luther et ses camarades. Nous allons y retrouver Boris Vian qui a retrouvé sa trompette. Et nous allons même y retrouver les petits danseurs qui dansaient avec vous. Un peu assourdi par l'ambiance habituelle du tabou que vous avez retrouvé ce soir, je veux simplement rappeler que ici, après la muse brune de Saint-Germain-des-Prés, il y a la muse blonde Anne-Marie Casalis.
Ça vous émeut aussi de vous retrouver dans cette ambiance?
Oui, beaucoup.
Voilà. Et alors, le monsieur qui est là, regardez-le bien, mesdemoiselles. Tout à l'heure, on vous a parlé des gens qui protestaient, des voisins. Voilà le monsieur qui a conduit l'attaque contre le tabou. Voilà monsieur Jean Osé. C'est lui, Pierre Osé, pardon. C'est lui qui envoyait les seaux d'eau par la fenêtre sur la tête de Gréco et d'Anne-Marie Casalis en cet heureux temps. Alors, voyez-vous, monsieur, vous y êtes enfin venu au tabou. C'est la première fois que ça vous arrive?
C'est la première fois que ça m'arrive.
Est-ce que ça vous plaît?
Parce que j'étais dans les opposants et les
résistants. Je ne sais pas si tu te rends compte, il n'est jamais venu, pour comble.
Il protestait comme ça, pour protester.
Je ne pouvais pas, puisque j'avais pris la tête du mouvement anti-tabou.
Est-ce que
il y avait peut-être beaucoup d'esprit en dedans, mais dehors, il était plutôt endormi si nous ne dormions pas à nous. Où est-ce qu'on va maintenant? Et des cris d'animaux, et des portières.
Les cris d'animaux, c'est pas nous.
Jamais.
Mais est-ce que maintenant vous avez changé d'avis? Est-ce que ça vous plaît, le tabou?
Oui, parce que le tabou est endormi maintenant.
Extérieurement. Celui dans lequel vous vous trouvez, est-ce qu'il vous plaît?
Oui, beaucoup.
Est-ce que vous aimez? Vous savez que.
Il est lâche.
Boris Vian ce soir a rejoué de la trompette pour la première fois.
Magnifique.
Hein, pour ce client exceptionnel que vous êtes. Vous êtes le client qui, 10 ans après, est enfin venu au tabou. Voilà. C'est merveilleux, hein?
Pour
fêter cet anniversaire.
Je refuse de le regarder, il est ignoble.
Eh bien, moi, je suis heureux.
Moi pas.
Je suis heureux.
Vous êtes heureux de...
Que la chrysalide, qui cherchait ses ailes dans l'ombre plus ou moins mouillée de la rue Dauphine, ait trouvé son chemin de lumière.
Merci, monsieur.
Gentil. Monsieur. Bien, écoutez, je pense qu'il est naturel que pour terminer sa joie de vivre, et un tout petit peu pour vous et pour nous tous, Juliette Gréco chante maintenant son dernier succès, l'Auvergnat.
Oh. Ah oui.
Hein?
Oui.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'enfonce. M'a donné 4 bouts de bois quand dans ma ville faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un peu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, ô Père éternel. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'hôtesse qui s'enfonce m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma ville faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, ô Père éternel. Cette chanson, toi l'étranger qui s'enfonce d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquants faisaient les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir ramener. Ce n'était rien, un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore
à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel.
C'était La joie de vivre de Juliette Gréco par Henri Spad et Paulette Sérac, première diffusion sur la chaîne parisienne le 29 janvier 1956.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est sale, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, l'épuiser à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Longtemps marcher dans mes rêves. Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça, j'arrive à oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Aura longtemps le parfum des regrets. Mais puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est sale, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.